Le déplacement s'annonce express et pourtant les enjeux sont majeurs. Emmanuel Macron, ça y est, a donc décidé de se rendre sur place. Il est en route d'ailleurs au moment où l'on se parle. Il arrivera aux alentours de 22h demain puisque c'est un vol qui dure plus de 20h pour se rendre dans l'archipel. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Clémence Dibou. Bonsoir Clémence. Une première question peut-être d'abord Clémence sur la venue du président. Est-ce qu'on réagit sur place et si oui, comment ?
La nouvelle est tombée très tard ici, donc il n'y a pas eu beaucoup de réactions officielles. Elle devrait tomber ce matin, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que c'était une grosse surprise. Personne ne s'attendait à ça. Ça risque d'être bien vu, même sur tous les bords politiques, parce que Emmanuel Macron avait proposé une discussion, mais à Paris. Le fait que le président de la République se déplace dans l'archipel, eh bien c'est quand même un signe pour dire que il y a moins ce côté vassal qui avait agacé les partis d'opposition. Ça, c'est pour les hommes politiques, pour les réactions politiques. Pour les habitants, en fait, il y a plusieurs réactions. On a un barrage qui n'est pas très loin de là où on se trouve, un barrage de personnes qui défendent, qui ont installé des barrages à l'entrée de leur zone résidentielle pour protéger leur zone résidentielle. On est allé les voir, leur demander ce qu'ils pensaient de l'avenue d'Emmanuel Macron. Ils nous ont dit, est-ce que ça va régler le problème ? C'est surtout qu'en fait, pour sa sécurité, il va falloir mobiliser énormément de forces de l'ordre. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. On peut imaginer aussi qu'il va y avoir une volonté de manifester de la part des indépendantistes. Et puis aussi, quid de ce qu'on appelle ces perturbateurs, 5000 très jeunes personnes qui ont souvent parfois pillé ou brûlé les magasins, vont-ils vouloir manifester une hostilité parce qu'Emmanuel Macron représente tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire l'État. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura des échauffourées quand il sera sur place.
Clémence, parlez-nous justement de la situation sécuritaire. Vous vous êtes déplacée ces dernières heures, qu'avez-vous vu ?
Alors cette nuit, puisque nous sommes le matin, a été plutôt calme, pas d'incident, en tout cas remonté par le Haut Commissariat ce matin. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de violences, il y a de moins en moins d'actes que l'on peut compter, moins d'incendies, sauf que la tension, elle est toujours là, elle est toujours extrême. Je vous le disais, hein, les barrages qui sont souvent dans le sud de Nouméa, de résidents qui veulent se protéger d'incursions, eh bien, il y a pas assez de confiance pour pouvoir dire « Ok, c'est bon, on lève les barrages ». Ces barrages-là, ils sont toujours en place. Et puis, parfois, quand les forces de l'ordre enlèvent un barrage, souvent, par exemple, d'indépendantistes, eh bien, il est parfois remis le lendemain. Donc, les forces de l'ordre progressent très lentement, à l'image de cette fameuse route qui mène du centre-ville à l'aéroport international. À grand renfort médiatique, on a vu que les 76 barrages avaient été levés par les forces de l'ordre, sauf que, eh bien, premièrement, cette route, elle n'est toujours pas ouverte à la circulation. C'est toujours les forces de l'ordre qui tiennent l'entrée et la sortie de cette route. Et puis surtout, quand on regarde du ciel, on a pu faire un tour en hélicoptère, on voit qu'il y a encore des barrages sur les bas-côtés de cette route. Elle n'est pas complètement sécurisée, elle n'est pas donc prête de rouvrir, comme l'aéroport international qui, lui, ne rouvrira pas avant au moins samedi.
Merci beaucoup Clémence Dibou et merci à Domiti Berthaud qui est avec vous sur place. Un mot Guillaume Fard sur la situation sécuritaire avant de parler bien sûr des enjeux de la venue du président. Les deux prochains jours vont quand même être très importants sur le plan sécuritaire parce qu'il va falloir donc assurer la sécurité du président, oui. Jauger si les renforts militaires sont efficaces pour protéger les bâtiments publics et aussi observer si les renforts, les barrages, pardon, Clémence en parlait, ne se reconstitue pas après le passage des forces de l'ordre. Ça fait beaucoup.
Oui, évidemment, il va falloir s'occuper de la sécurité du président de la République. Bon, qu'il ne reste pas longtemps. S'il avait logé quelque part, ça compliquait encore le dispositif. Puis s'il avait rallongé sa venue, par exemple, s'il était resté 3 jours ou 2 jours, ça faisait que les forces de l'ordre qu'on avait envoyées en renfort auraient dû en partie, pas en intégralité, être mobilisées pour sécuriser le président de la République.
Sur une échelle de 1 à 10, quel est le risque pour le président ?
Je sais pas.
Dans le contexte actuel ?
C'est un risque d'ordre public, donc après le quantifier de 1 à 10, je saurais pas faire ça, mais c'est pas un risque terroriste, par exemple. Après, il y a évidemment toujours un risque qu'on s'en prenne à lui physiquement, mais ça reste des problématiques d'ordre public. On sait les gérer. Ce qui est délicat, c'est que le ministère de l'Intérieur a envoyé 1131 policiers, gendarmes supplémentaires en renfort pour justement regagner la bataille de la rue. Et là, vous avez le président de la République qui arrive. Il va falloir faire en sorte que certains de ces policiers et gendarmes s'occupent du président. C'est ça qui peut être gênant, mais temporairement. Après, sur le plan de la sécurité, ce qui est plus délicat, c'est d'avoir dans la durée des renforts qui ne sont plus en métropole, mais en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on en a besoin. On a besoin parce que le 6 juin, il y a les célébrations du 80e anniversaire du débarquement, puis il y a le relais de la flamme, puis il y a les Jeux olympiques à venir, avec la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, puis toute la séquence. Donc ça peut pas, sur le plan sécuritaire, ça peut pas durer longtemps. C'est pour ça qu'il y a l'état d'urgence, qui est un peu un dopant. C'est-à-dire, on vous donne des prérogatives de police administrative étendues, des renforts arrivent pour les faire appliquer, ça doit aller vite. Donc, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, mais ça n'est pas parfaitement ni complètement rétabli.
Christophe Barbier, parlons de la venue du président sur place. On sait que dans son avion avec lui, il y a donc trois ministres et de hauts fonctionnaires avec trois principales missions. Aller voir les habitants, exprimer sa solidarité, remercier les forces de l'ordre et rencontrer les élus locaux pour tenter de trouver une issue politique. La grande inconnue ce soir, c'est si cette issue politique, cette solution politique va passer par le report du congrès de Versailles qui est censé acter la réforme du code électoral.
Exactement. C'est déjà demain en Nouvelle-Calédonie et pourtant le président de la République doit remonter le temps. Il doit remonter le temps pour voir si on remonte à il y a quelques jours, quand il y a eu ce vote d'une loi provoquant le dégel du corps électoral, ce qui était demandé d'ailleurs par des instances juridiques, c'était assez logique, mais qui a mis le feu aux poudres en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on revient à avant et on dit stop ? On arrête le dégel électoral, on ne convoque pas le congrès, on se redonne du temps. Est-ce qu'on remonte plus loin ? Est-ce qu'on remonte d'environ 3 années et demie, c'est-à-dire avant le référendum de 2021, ce fameux référendum de décembre, qui a eu un très large succès pour le rattachement à la France, parce qu'il a été boycotté par les indépendantistes, donc il y a eu une très forte abstention, 45% de participation, et évidemment plus de 90% de mémoire de vote non à l'indépendance. On annule, on dit on va refaire un référendum, le troisième référendum était légal, mais il n'était pas légitime, on va trouver les moyens de reprogrammer un référendum. Dans 40 ans du Marine Le Pen, non. On va faire ça dans quelques mois ou dans quelques années pour terminer ce cycle ouvert en 98. Ou bien est-ce qu'on remonte le temps plus loin, jusqu'en 98. Les accords de Nouméa, tissés par Lionel Jospin, qui provoquaient et qui proposaient des grands transferts de pouvoir et de souveraineté de l'État central vers la Nouvelle-Calédonie, qui donnait aux indépendantistes la maîtrise de certains territoires, de certaines activités, qui inscrivait de manière fusionnelle le droit coutumier dans les institutions. Enfin bref, toute une série de réformes qui permettaient d'aller vers l'association. La Nouvelle-Calédonie restait française, mais elle n'était pas un département comme les autres. Elle était administrée, pensée, construite politiquement autrement. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Revenir en 98 et dire c'était formidable les accords de Nouméa pensés par Lionel Jospin. Ils sont maintenant obsolètes parce qu'on a franchi d'autres étapes. On fait des nouveaux accords de Nouméa. Et là, il faudra trouver les artisans pour le faire.
On sera dans un instant avec la maire de Nouméa qui sera en direct avec nous. Mais un mot avec vous, Nora. Est-ce que pour remonter le temps, il fallait forcément aller sur place ? Est-ce que la présence physique du président peut changer quelque chose ?
Alors, la présence physique du président, c'est déjà un signal qui est envoyé de la prise en compte au plus haut niveau, en fait, de cette question calédonienne, cette question qui a, pour le coup, été quelque peu balayée ces dernières années. Preuve en est la déclaration de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ce soir, qui était extrêmement, respecté de tous les camps et qui lui-même disait qu'il ne fallait pas tenir ce troisième référendum parce que nous étions dans une période de Covid, juste avant la présidentielle, juste avant les législatives. Et ce soir, il dit, on attend effectivement que des choses, qu'il y ait des annonces. Donc, clairement, il y a une attente. Est-ce que c'est au président de la République d'aller opérer en fait ce type de négociation ? C'est quand même un aveu d'échec d'une stratégie qu'il a souhaitée lui-même. Il emmène dans ses bagages le ministre des Armées, Sébastien Lecornet, qui a porté ce troisième référendum un petit peu au forceps, même plus qu'au forceps, par rapport aux indépendantistes. Alors, est-ce que c'est un bon signal qui est envoyé quand, par ailleurs, les indépendantistes accusent le gouvernement d'être partial, quand ils nomment la leader des loyalistes, quand ils permettent à un député loyaliste aussi d'être rapporteur sur ce dossier. Là-dedans, c'est une ligne extrêmement ténue que va devoir suivre le président de la République. Ça, symboliquement, c'est fort d'y aller. Maintenant, est-ce que ça suffira ? C'est pas dit.
On va poser la question justement à la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, maire Renaissance de Nouméa. Vous êtes maire de la ville depuis 2014. Merci d'être avec nous, tout d'abord dans cette émission. J'imagine que vous allez rencontrer le président de la République. Quelle est la première chose que vous allez lui dire ?
Alors, je vais lui dire qu'il faut faire une pause dans cet espace institutionnel, c'est-à-dire faire une pause, il ne faut pas convoquer le Congrès à Versailles. C'est aujourd'hui la seule solution, la plus sage, il me semble, qui doit être entendue. C'est ce que je préconise parce que la situation est compliquée. Je voudrais juste revenir, avant de poursuivre, que la nuit n'a pas été aussi calme que ça pour la commune de Nouméa. Nous avons eu 2 écoles incendiées cette nuit, 1 école pillée. Dans les quartiers nord aujourd'hui, la situation, c'est que nous n'avons plus qu'une école, il reste plus qu'une école sur les 5. Des barrages, effectivement, tentent d'être levés, mais il faut savoir que les émeutiers reconstruisent les barrages tout de suite après, qu'on a eu une grosse entreprise de Ducos qui a brûlé cette nuit, que le concessionnaire Renault a eu 300 véhicules brûlés. Donc vous voyez que la nuit n'a pas été aussi calme que ça. Donc le président de la République, il arrive dans ce contexte. J'entendais votre journaliste qui disait que c'était un signal fort. Oui, c'est un signal fort, ça veut dire que le président lui-même se déplace, il va venir entendre tout le monde, mais je crois que la solution de la sagesse, c'est vraiment de faire une pause, parce que si nous ne faisons pas de pause, alors tout ça va continuer et je ne sais pas, on est dans une situation qui est dramatique sur le plan social, on est sur une situation qui est dramatique sur le plan économique et les incendies chaque nuit a son lot d'incendies. Il ne va plus rien rester bientôt dans la ville. Donc, sa venue, eh bien, je pense qu'elle est acceptée par tout le monde et ça va lui permettre de prendre la température auprès des uns et des autres et d'écouter en particulier la société civile qui, elle, a aussi des choses à dire.
Mais ce report que vous réclamez ce soir, Madame la maire, il n'est pas du tout accepté par beaucoup de ceux qui font partie de votre camp, le camp que l'on appelle des loyalistes. Beaucoup considèrent que reporter ce congrès de Versailles, ce serait céder face aux émeutiers.
Non mais attendez, quand vous êtes à la veille, et ça fait des mois et des mois maintenant, qu'on essaie de trouver un accord, qu'on voit bien que les positions se sont radicalisées, est-ce qu'on peut avoir un peu de lucidité sur la situation qui est la nôtre? J'ai même entendu certains qui disaient que ce serait un déshonneur pour la France. Enfin, ces mots ont du sens, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Et donc, aujourd'hui, la situation, elle est tellement grave. Que est-ce qu'on peut se poser un petit peu? Et ceux qui disent ça, je suis désolée, ça, c'est de l'irresponsabilité. Quand vous êtes dans cette situation, eh bien, vous cherchez toutes les solutions. Il s'agit pas ni de déshonneur, ni de quoi que ce soit. Et la seule solution, à mon sens, aujourd'hui, c'est celle de la raison.
Oui, mais Sonia Lagarde, est-ce que ces divisions étalées au grand jour, là, depuis quelques heures, elles ne sont pas aussi responsables de cette impasse politique?
Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je suis maire de cette ville, je n'ai jamais été associée à aucune discussion concernant l'avenir du territoire. Je ne cesse de dire qu'il faut écouter la société civile et en particulier les maires. Donc aujourd'hui, on est en train de rajouter un problème à un problème dont on n'a absolument pas besoin. La situation, elle est suffisamment catastrophique pour que, entre loyalistes qui appartiennent à Renaissance ou pas aux Républicains, on aille étaler au grand jour nos divergences. C'est qui commence à mettre le feu? Est-ce qu'on a besoin de ce feu-là aujourd'hui? Non. Alors il s'agit de responsabilité et de sagesse. Alors moi j'en appelle à tout le monde. J'appelle les émeutiers à la sagesse. Mais j'appelle aussi les politiques à la sagesse.
Christophe Barbier.
Madame la maire, on entend bien votre appel à la sagesse, mais au bout du bout, il faudra bien un jour réintégrer sur les listes électorales les dizaines de milliers de citoyens qui en sont exclus depuis 98.
Mais je suis complètement d'accord avec vous. Quand je préconise une pause institutionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler et on doit évacuer pour toujours le dégel du corps électoral. Je suis d'accord avec vous. Je suis une élue qui n'a pas voté l'accord de Nouméa parce que dans l'accord de Nouméa, il y avait déjà un corps électoral qui était glissant. Donc je sais de quoi je parle. Et moi, je trouve inadmissible que des gens qui sont venus s'installer ici, qui ont fondé des familles, qui ont des enfants qui sont nés sur le territoire, ne puissent pas accéder au vote en faisant n'est pas dans une situation démocratique, donc il le faut ce dégel. Mais est-ce qu'on doit en parler, faire une pause?
Sonia Lagarde, oui. Nora Hammadi veut vous poser une question.
Sonia Lagarde, on entend qu'effectivement, il y a une part de gens qui sont venus s'installer, qui ont fondé des familles. Vous pouvez entendre aussi que du côté des Kanaks, on est face, selon ce qu'ils posent, à un fait colonial et qu'ils estiment, en fait, être noyés et qu'ils ne veulent pas finir, comme les aborigènes d'Australie, en minorité sur leur propre terre.
Non mais ça, je ne peux pas l'entendre, parce que prendre la situation de l'Australie aujourd'hui, alors il faut que les Australiens regardent devant leur porte.
Nous non mais là, je ne parle pas de l'Australie, je parle des Kanaks qui disent qu'ils ne veulent pas finir comme les aborigènes d'Australie, en l'occurrence en minorité sur leur propre terre. Ils parlent de fait colonial. Est-ce qu'on peut entendre que ce dégel, pour eux, est un casus belli et qu'on est face à un fait colonial qui risque de les évincer de leur terre ancestrale ?
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'accord de Nouméa ? Ils ont tous été signataires de l'accord de Nouméa. Et qu'est-ce que disent les indépendantistes aujourd'hui sur l'accord de Nouméa ? C'est écrit dans le marbre. Ça veut dire que c'était quelque chose de totalement immuable. Et dans cet accord de Nouméa, il y avait bien 10 ans glissants. Ils l'ont signé. Et il y a 2 mois de ça, il y avait toute une frange des indépendantistes, l'UNI en particulier, qui était complètement d'accord, parce qu'ils disaient, si on en revient à 10 ans glissants, on l'accepte, parce que c'était déjà écrit dans l'accord de Nouméa. Donc aujourd'hui, les discours et les postures qui sont celles de certains indépendantistes ne sont pas entendables, vous comprenez ?
Donc, et est-ce que la nouvelle question justement à l'un d'entre eux, Madame Lagarde. Restez avec nous parce qu'on a plein d'autres questions à vous poser, mais on parlait des indépendantistes. L'un d'entre eux est avec nous, pas n'importe lequel, Roch Ouamitan. Bonsoir, vous êtes président indépendantiste du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. J'imagine que vous écoutez attentivement ce qui est en train de se dire. Tout d'abord, est-ce que vous saluez la prise de position de la maire de Nouméa qui appelle ce soir le président de la République à faire une pause dans le processus qui doit mener à la réforme électorale, du corps électoral ?
Oui, bonjour. Bonjour madame, je pense que c'est une position très sage qui est défendue par madame la maire de Nouméa. En ce qui nous concerne, nous allons un peu plus loin puisque nous avons carrément demandé le retrait du texte.
Je crains que la connexion soit compliquée, Roch Ouamitan. Je suis désolée, on a un peu de mal à vous entendre. On essaiera de vous joindre à nouveau dans quelques minutes. On va de nouveau retrouver la maire de Nouméa. Vous vouliez poser une question, Père et collègues.
Christophe et Nora ont posé les questions que je voulais poser, mais...
Ah bah, si vous en avez plus, peut en poser d'autres.
J'en ai une troisième. Je pose donc...
Allez-y, elle est là.
La situation est ce qu'elle est. Il y a une réalité du peuple kanak ou de la nation kanak, on l'appelle comme on veut, je comprends, mais on est dans les mêmes configurations que les pieds noirs d'Algérie. À un moment donné, il y aura soit une conciliation... possible, mais il ne fallait pas s'y prendre de cette façon, puisqu'on avait quand même connu à un moment donné une option de paix. Il va y avoir une confrontation avec une partie de la population originaire de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks. Je ne vois pas quelle issue autre qu'une partition du territoire ou qu'une indépendance de fait de la Nouvelle-Calédonie avec un statut pour les Français qui y sont. Je ne vois pas quelle autre solution pourra se négocier, puisque je pense que irrémédiablement les confrontations reviendront et que les Kanaks ne renonceront jamais à leur droit de disposer d'eux-mêmes. À moins qu'il y ait un vrai.
On va écouter sa réponse.
Voilà, à moins qu'il y ait un vrai effort de la part des caldoches et des loyalistes. Sans ça, je pense que cette affaire, ça sera comme Palestine et Israël, ça pourra durer des années.
Alors, vous vouliez me poser la question, je vais amener une réponse. Ça fait un certain nombre d'années que je fais de la politique. Je n'ai jamais, j'ai toujours été respectée par les Kanaks et les Kanaks me respectent. Est-ce que aujourd'hui, on a toujours ensemble dit que nous voulions construire cette Nouvelle-Calédonie sans exclusive ? Je ne crois pas aujourd'hui, malgré la situation. Je ne crois pas que, et je pense que nous sommes plutôt capables d'essayer de nous mettre autour d'une table et d'entendre. Alors peut-être qu'il va falloir trouver un accord. Peut-être que cet accord peut être la prolongation de l'accord de Nouméa. Pourquoi pas avec une version nouvelle, parce qu'on sait très bien, vous aviez parlé tout à l'heure des transferts de compétences, on sait très bien qu'aujourd'hui ça fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait, mais je crois que la discussion est encore possible. On entend un certain nombre d'indépendantistes qui nous disent il faut construire le pays ensemble. C'est ça qui se dit aussi. Et donc, est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on est suffisamment responsables les uns et les autres pour essayer de construire et ne pas aller évoquer une petite Algérie, etc. Aujourd'hui, on a un pays. À quoi ça mènerait l'indépendance ? Je suis d'accord avec vous sur un point. C'est que les indépendantistes n'oublieront jamais. Jamais. C'est leur fonds de commerce, l'indépendance. Mais l'indépendance, ça doit se construire sur un vrai projet de société, parce que s'il n'y a pas ce projet derrière, eh bien, ça va être l'appauvrissement des populations. Et moi, qui suis une Calédonienne de souche, descendante de bagnards, je le dis, hein, je suis aussi une victime de l'histoire dans ce pays, parce que la colonisation pénitentiaire, ben moi, je ne suis pas responsable. Et donc, vous voyez que s'il y a des victimes d'un côté, il y a aussi des victimes de l'autre. Alors, entre victimes, est-ce qu'on peut se parler? Et est-ce qu'on peut s'entendre? David Lerange a été très clair là-dessus. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on reprenne ce dialogue et qu'on essaie de construire effectivement pour nos jeunes demain un pays qui soit prospère.
Et c'est notamment pour ça que le président de la République se rend sur place. On a retrouvé la connexion avec Roch Ouamitan. Alors, on va essayer de lui poser quelques questions. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ouamitan? Je le précise, le rappelle, vous êtes le président indépendantiste. Non, ça ne fonctionne pas. C'était le président indépendantiste du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je le sentais. On voyait que la connexion était un peu compliqué, donc on va retrouver Sonia Lagarde, maire Renaissance de Nouméa. Vous parliez d'une reprise du dialogue nécessaire, plus que nécessaire, madame la maire. Est-ce que, selon vous, elle doit être accompagnée d'une médiation de hauts fonctionnaires, puisque c'est visiblement cela qui se profile? Le président de la République vient avec 3 ministres, mais aussi des hauts fonctionnaires, plus que des responsables politiques pour accompagner ce dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors moi je pense que c'est une bonne solution. Il ne faut pas oublier que ces derniers temps, les indépendantistes ont appelé à une mission du dialogue. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les choses sont rompues, elles se sont radicalisées d'un côté comme de l'autre. Et donc il faut remettre un peu d'huile dans les rouages. Alors est-ce que mettre de l'huile dans les rouages, c'est effectivement d'amener ici une mission du dialogue ? Et j'ai toujours dit qu'elle était indispensable. Elle était indispensable, mais en plus, elle devait être composée de gens qui sont détachés du fait politique. Il faut une impartialité dans cette mission du dialogue. Donc, je ne sais pas de qui elle est composée. Nous allons le découvrir ce soir quand le président de la République va arriver. Mais je crois qu'elle est nécessaire et on a besoin de toutes les bonnes volontés parce que la situation politique s'est radicalisée de part et d'autre. Donc, voilà, je crois que...
Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est cela qui va finir par mettre tout le monde d'accord autour d'une table?
Non, mais je ne sais pas si des hauts fonctionnaires, moi je ne sais pas répondre à cette question, je ne sais pas si, de qui elle est composée. En tout cas, nous avons besoin d'une mission avec des gens qui représentent ou qui ont une certaine impartialité et qui seront à même de pouvoir écouter les uns et les autres et capter tout de suite quels sont les problèmes et essayer de résoudre ces problèmes en faisant que tout le monde se reparle et tout le monde essaie de dialoguer et trouver le consensus.
Vous disiez, Sonia Lagarde, que la dernière nuit a été encore très tendue, qu'une école notamment a été incendiée, qu'une seule école est en état d'accueillir les élèves actuellement sur les 5 écoles de Nouméa. Est-ce que vous pensez que la venue du président est de nature à apaiser les mœurs, calmer ces tensions ou bien au contraire?
Alors, la venue du président de la République, elle marque au moins une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie n'est pas juste quelque chose qu'on met un peu à part dans la réflexion du président de la République. Ça veut dire que s'il vient et fait ce déplacement dans un emploi du temps que, pour lui, j'imagine, extrêmement chargé, alors ça veut dire qu'il y a un intérêt profond pour la Nouvelle-Calédonie. Il est venu 2 fois, il l'a marqué. Alors, moi, je pense que c'est de nature, c'est-à-dire cet intérêt qu'il porte pour la Calédonie est de nature à apaiser et à faire en sorte qu'on arrive à trouver des voies et les moyens. Voilà. Vous avez dit une école brûlée. Genre, 2 écoles brûlées, une pillée.
Cette nuit à Nouméa.
Dans les quartiers nord, il ne reste plus qu'une école sur les 5.
Je reviendrai vers vous dans un instant pour poser d'autres questions justement sur la dimension sécuritaire. Mais Richard, une réaction peut-être à ce que l'on vient d'entendre. Tout le monde s'accorde à dire que cette venue du président, quelle que soit l'issue de ce déplacement, est une bonne chose. C'est ce qu'il fallait faire.
Écoutez, je n'ai pas entendu Madame la maire de Nouméa dire que c'était ce qu'il fallait faire. Elle se félicite de la venue parce que le président est dans l'avion, mais elle nous a dit, si je ne me trompe pas, qu'elle aussi l'a appris à la dernière minute. Oui. Mais bon, de toute manière, l'affaire
est réglée.
Enfin,
personne ne dit que c'est une mauvaise idée.
Emmanuel Macron est dans l'avion. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y aura une symbolique aussi dont on n'a pas parlé. C'est la symbolique vis-à-vis des pays étrangers, des pays autour de la Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez que la situation géopolitique dans la région Asie-Pacifique est une région sous tension, avec une Chine qui a un appétit croissant pour les territoires du Pacifique. Y aller, que le président de la République débarque à Nouméa, c'est aussi une manière forte de dire à tous ces pays, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, je me déplace et je suis présent. Ça, je crois que cette symbolique est importante. Mais je voulais me retourner vers la maire de Nouméa, car elle a parlé de partenaires de la société civile. Des partenaires qui, si j'ai bien compris, n'ont jusque-là pas été consultés. Ce qui me paraît assez grave, voire très grave. Est-ce possible, en une visite aussi courte, de donner du crédit à ses partenaires de la société civile ? Faut-il, par exemple, qu'Emmanuel Macron leur rende visite en priorité, au lieu de se trouver dans un tunnel de réunion avec des fonctionnaires du Haut-Commissariat ? C'est une question.
Sonia Lagarde.
Oui, alors le président de la République, j'entends vos commentaires depuis tout à l'heure sur la sécurisation du président, etc. Le président, quand il vient 24 heures, c'est ce qui va rester. Il va rester au commissariat, j'imagine, et que le haut-commissaire est en train de faire un appel à tout le monde pour que, voilà, dans tous les corps de métier, enfin je veux dire pas les corps de métier, mais en tout cas la société civile, est-ce qu'on doit aujourd'hui écouter le monde économique qui est en péril ? Est-ce qu'on doit écouter les maires ? Est-ce qu'on doit écouter d'autres gens issus de la société civile ? La réponse est oui. Ce que je voudrais dire, c'est que les discussions qui se sont engagées sur le plan politique, on n'a jamais voulu, les politiques ici, ceux qui ont une responsabilité au niveau du Congrès, n'ont jamais jugé utile, eh bien, d'écouter la société civile. La société civile, quelle qu'elle soit, y compris le monde économique, a des choses à dire. Nous avons des choses à faire valoir, et y compris les maires. Comment voulez-vous trouver un accord demain si vous n'avez pas un champ le plus large possible qui a été consulté de façon à ce que si on arrivait par chance à trouver un accord, eh bien, ce soit validé par le plus grand nombre. On ne peut pas être restrictif, et c'est ce qui s'est passé.
Mais vous, typiquement, vous allez le voir à la mairie ou au commissariat ? Comment ça va se dérouler ?
Non, j'attends, parce que je ne pense pas qu'ils viennent en mairie. Nous allons, les uns et les autres, sans doute, accepter des réunions avec le président qui se feront au sein du haut-commissariat.
Mais juste une dernière question, Madame la maire. Vous disiez tout à l'heure que vous appelez les émeutiers à la sagesse. À qui vous adressez-vous ? Oui. Qui sont-ils ?
Alors, les émeutiers, vous savez, il y en a à peu près 5000 sur la ville de Nouméa. Ce sont des jeunes entre 15 et 25 ans qui ont été, qui sont bien organisés, qui ont sans doute été formés. Ce que je regrette aujourd'hui, et ce que je vais dire, c'est que les responsables politiques, que ce soit du FNLKS, voire cette cellule de coordination de terrain qu'on appelle la CCAT, qui est une émanation du FNLKS. Aujourd'hui, on met des jeunes émeutiers sur les barrages, sans foi ni loi. Et là, je regrette au moins une chose, et je vais le dire, et c'est grave, c'est qu'on met des jeunes, qu'on en fait de la chair à canon. Parce que demain, ça risque d'être encore plus grave. Est-ce qu'on va tirer sur les émeutiers ? Donc je crois qu'à un moment donné, il faut quand même se calmer. Moi, j'entends beaucoup de messages à la radio de Nouméens qui poussent, comme on dit, dans des émissions, des coups de gueule. J'en entendais un ce matin qui disait « Nos écoles brûlent ». Est-ce que c'est ça qu'on veut demain pour nos jeunes ? Est-ce qu'on envoie nos jeunes qui sont finalement, ce qu'ils disaient, de la chair à canon ? Parce que demain, il y en a certains qui peuvent être tués. Donc, à un moment donné, on réfléchit. Est-ce qu'on est en train de sacrifier ? Est-ce que les politiques indépendantistes sont en train de sacrifier une partie de leur jeunesse sur les barrages ? C'est une vraie question à laquelle ils doivent répondre.
Merci. Moi, je suis Sonia Lagarde. Merci voilà. Pour votre réaction ce soir sur BFM TV. Un mot sur la situation sécuritaire. C'est important ce que l'on vient d'entendre, puisque ça vient de la maire de Nouméa. La situation est beaucoup moins calme qu'il n'y paraît. La nuit a été compliquée.
Ça reste difficile. Après, comme toujours, il y a un point de départ. Il y a une situation à l'heure où on a cette conversation. Le point de départ est catastrophique. Donc, quand on a ça comme point de départ et comme point de comparaison, en toute objectivité, c'est mieux. Est-ce que c'est satisfaisant, suffisant? Certainement pas. Quand vous avez des barrages qui sont retirés par les forces de l'ordre, mais qui se reforment après, ou qu'il y a encore des situations où des jeunes vont s'en prendre à des habitants de Lille, à des commerces, pour ce qu'il en reste, et qu'ils continuent, dans certains cas, quand c'est encore possible, les pillages, non, ça n'est pas pleinement satisfaisant, loin s'en faut. Mais ça s'est amélioré. Donc l'enjeu, c'est la reprise de contrôle de Lille, mais il faudra encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et surtout, ça dépend d'un accord politique. Le fait de dépêcher des renforts sur place, enfin, si on prend une métaphore médicale, c'est un antalgique. Mmh. Ça n'a jamais été un remède. C'est pour reprendre le contrôle d'une situation qui avait échappé aux autorités de l'État. Et une des questions qui va se poser bientôt, c'est la prolongation ou pas de l'état d'urgence.
Et pour l'instant,
par précaution, le projet de loi
voilà,
a été préparé.
Tout est prêt pour qu'il soit prolongé.
Avis conforme.
Par précaution.
Mais on ne sait pas du tout. Et puis de toute façon, comme le prévoit la loi de 55, il faut une loi. Pour prolonger.
Pour prolonger.
Au bout des 12 jours, la question d'un passage devant le Parlement se posera.
Donc on le saura assez vite, en l'occurrence. Oui. Christophe Barbier, lorsqu'on entend la maire de Nouméa, députée Renaissance, on a du mal à saisir comment le président de la République va pouvoir, en l'espace de 24 heures, parce que ce sera un déplacement express, relancer un début de dialogue politique.
C'est un exercice obligé. S'il ne revient pas de là-bas avec la certitude qu'il a posée...
Elle n'est pas députée Renaissance, la maire.
Elle est maire Renaissance.
Pardon. Vous avez le droit de me corriger, hein, j'ai vu Nora me regarder. Elle est maire Renaissance, pardonnez-moi.
Le président de la République est obligé de revenir en ayant au moins installé là-bas la table autour de laquelle on va discuter. C'est impératif. Sinon, ça sera vraiment un voyage pour rien. Est-ce que ça va calmer tout de suite les émeutiers? Peut-être que non. Est-ce que ça va donner... au FLNKS, un argument supplémentaire pour dire au CCAT qu'il ne contrôle plus vraiment, arrêtez les barricades, rentrez chez vous, la politique reprend le dessus, peut-être. Est-ce que ce sera la fin de la polémique sur le dégel électoral? On l'a bien compris, non. Ça doit aller de pair. Le président doit d'abord commencer par des concessions. Y aller, c'est déjà une concession. C'est une concession à l'idée que tout peut se décider depuis Paris, et puis les territoires n'ont qu'à suivre. Là-bas, expliquer que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait depuis 3 ans, s'est trompé de stratégie, que ce qui a été fait respectait la règle, mais n'avait pas compris l'esprit de la Nouvelle-Calédonie, c'est une deuxième concession qu'il doit faire. Ensuite, c'est peut-être beaucoup lui demander, considérant son sens de l'orgueil, mais il a aussi un sens de la communication tactique. Et on l'a vu parfois faire preuve d'humilité, certes formelle, mais qui permettait de renouer le dialogue. Je pense notamment au moment des Gilets jaunes, où face aux élus locaux, face aux Gilets jaunes, il a eu des moments de ce type. Ça sera nécessaire. Troisièmement, il faut qu'en face aussi, on fasse des concessions. Les référendums, ils ont été gagnés par les opposants à l'indépendance. Et ça, le FLNKS ne peut pas le nier. Il y a désormais une population qui est en partie métissée. Ils sont quoi, ceux-là? Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont kanaks, ils sont caldoches, ils sont français. Il y a des gens qui sont, depuis très longtemps, depuis des décennies, plus d'un siècle, enracinés là-bas. Ce ne sont pas des colons. Ce sont des citoyens, les kanaks. Ce ne sont pas comme les musulmans d'Algérie qui n'ont pas eu le droit de vote avant. Un peu en 1919 et beaucoup en 1944. C'est pas la même situation.
Nora, pour conclure, déplacement express, alors que les attentes sont évidemment très importantes, s'il échoue, s'il ne se passe rien à l'issue de cette venue, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le fusible d'après?
Ah ben là, en l'occurrence, s'il échoue, c'est le risque de retomber dans ce qu'on a connu dans les années 80. Mais ça, c'est Richard qui va pouvoir en parler parce qu'il il connaît bien mieux cette période des accords de Matignon et Nouméa que moi. Mais le risque, c'est de retomber dans une guerre civile et d'avoir des caldoches d'un côté, des canaques de l'autre, dans une île qui est particulièrement armée, avec un fait colonial qui est indiscutable, quoi que puisse en penser Christophe. Ça fait partie des 17 territoires du monde encore à décoloniser. Selon les Nations Unies.
La zone la plus coloniale.
Mais oui, bien sûr. Avec en plus la question sociale qui vient s'ajouter. Rappelons par ailleurs qu'on est dans une crise du nickel sans précédent, que ça représente un quart des emplois privés de l'île. Donc là-dedans, il y a une nécessité. C'est même pas une nécessité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça.
Ouais.
Et la première chose aurait peut-être été, avant de prendre l'avion, de dire on arrête le congrès, il n'y aura pas de congrès, on reporte inédit, on recommence et on arrête avec cette espèce de lubie que peut avoir le président de la République de mettre des ultimatums calendaires. Vous devez rendre vos copies pour le mois de juin. Si les copies ne sont pas rendues comme je l'entends, c'est moi qui déciderai. En Nouvelle-Calédonie, tous ceux qui sont passés par là et qui connaissent bien le sujet vous diront que ce type de rapport jupitérien ne peut pas fonctionner, mais là-dessus...
Et par ailleurs, non.
Non, on s'arrête là, malheureusement.
Non, mais Richard,
l'idée que...
Vraiment en un mot, faut qu'on passe à la suite.
Mais l'idée qu'un déplacement de 24 heures va démontrer que les décisions ne sont pas prises à Paris, j'ai un petit peu de la peine à la vallée.
Un petit peu de doute.
Parce que 24 heures, ce ne sont... que 24 heures, et la réalité, c'est que les décisions...
On suivra ça, évidemment, attentivement sur BFM TV, et on en reparlera sûrement ensemble. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous.
Demain, sans doute.
Sans doute.
Sur ce dossier, le président sera arrivé.
Avec grand plaisir, oui, on suivra ça avec vous demain, évidemment, sur l'antenne de BFM TV.